Le simple fait que la salle soit aussi remplie montre que le sujet des technologies pour l'autonomie intéresse plus que par le passé et que la silver economy, effectivement, se développe petit à petit. Pour ceux qui ne connaissent pas le photographe avec le projet Mamika, l'idée dans ma présentation très rapide sur les technologies n'est pas d'inventer Superwoman ou Super Mamie, on est bien d'accord, mais si on peut se rapprocher un peu des critères de liberté, de qualité de vie de mamie ou papy chez lui, chez elle, on serait bien content. Bon, là, en l'occurrence, un photographe d'Europe de l'Est qui a fait un book photo où il a mis en scène sa mamie qui s'ennuyait dans plein de situations loufoques et qui est, que je vous invite à regarder, Google, Mamika, ça se trouve bien facilement. Alors, en deux secondes, je vous dis qui on est. Moi, je suis le patron de Medialis, je m'appelle Mickaël Carré. On est un centre qui évalue les technologies pour l'autonomie. Je ne suis pas fabricant de matériel, je ne suis pas vendeur de matériel. Ça fait 9 ans qu'on existe et on évalue toutes les technos qui peuvent rendre service à papy-mamie, que ce soit à domicile, en établissement ou dans d'autres contextes. Et globalement, on essaye de répondre aux besoins suivants. Il y a plein de technos qui existent mais qui sont méconnues. Elles peuvent déjà apporter pour certaines des solutions. Alors certaines sont beaucoup trop chères pour ce qu'elles apportent comme service rendu. Certaines aussi ne peuvent pas être testées ou autres, mais bon, voilà. Et l'offre en question est méconnue des professionnels, encore plus des particuliers. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on est 18, ça fait 9 ans qu'on existe. Et notamment, vous nous connaissez peut-être par des sites web qu'on a créés ou qu'on anime. On a créé agevillage.com, certains d'entre vous connaissent peut-être. On a créé mdph.fr pour le monde du handicap, voilà. Et plus récemment, girontechnologie.com. Ce sont des sites gratuits, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de pub industrielle. C'est juste pour vous renseigner autant que possible. On a aussi sorti quelques bouquins que vous pouvez retrouver sur nos espaces. Je fais un peu de pub quand même, désolé. Typiquement, domicile autonomie technologie. Et plus récemment, cette année, on a sorti Innover pour plus d'autonomie. En fait, on fait des collectifs d'auteurs sur le sujet de l'essence à l'autonomie et des technologies associées. On a plein de partenaires, c'est pour ça qu'on se développe. Et je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous m'entendez bien, même au fond, ça va? Alors, gérontechnologie, mot barbare qui fusionne la gérontologie et la technologie. Globalement, des appareils avec un petit moteur, avec un peu d'électronique, qui servent au couple aidant-aidé. C'est un peu la différence avec l'aide technique habituelle, qui ne sert que à la personne aidée. Là, globalement, le produit souvent associé à un service va aider le binôme aidant-aidé. L'espèce d'huître sur le côté gauche, c'est pour dire que les technologies peuvent être portées par la personne elle-même. Vous savez, le magnifique médaillon de téléassistance, le gros truc rouge, ultra stigmatisant. Donc bon, ça peut être des bracelets-montres, c'est un peu moins stigmatisant, ça peut être des balises. Certains acteurs ont inventé les GPS portés à la cheville, par exemple. Bon, je vous présente ce qui existe. Après, on peut parler de l'éthique et tout, bien sûr. Les technologies peuvent être installées dans le lieu de vie de la personne. Je préfère parler de lieu de vie plutôt que de chambre d'hôpital, chambre d'EHPAD ou appartement. Donc dans le lieu de vie, ça va être la domotique, les fameux capteurs de mouvement qui vont permettre de détecter des chutes notamment. Ça va être les tapis, des sous-couches de sol en fait qui permettent de détecter une chute aussi. Ça va être bon, des technologies en tout cas pas portées par la personne et en général un peu plus discrètes. Et enfin dans la cité, je donnerai juste un exemple. Les feux sonores, vous savez, pour traverser la rue quand on est malvoyant ou non-voyant, qui ont à la fois l'utilité de dire le petit bonhomme piéton est vert ou pas, et aussi, il y a un message directionnel pour que la personne traverse bien au niveau des clous et pas en biais, en se mettant en danger. Je vais essayer de vous présenter en une demi-heure, c'est un challenge pas possible, mais quelques technologies différentes, quelques cas concrets, qui vont être en gros déployables aussi bien à domicile qu'en établissement, accueil de jour, résidence senior, enfin, dans toutes les structures qui sont présentes aujourd'hui sur ces trois salons réunis. Je prends juste un exemple par rapport à la cité, parce que technologie pour l'autonomie, ça peut renvoyer à beaucoup de choses, y compris l'accessibilité pour tous. Vous devez savoir qu'il y a une loi en février 2005 importante en France qui est parue, les décrets d'application qui ont suivi. Aujourd'hui, toute mairie, tout hôpital, tout EHPAD, donc établissement type maison de retraite, l'accueil de ces structures-là doit être comme ça. Physiquement, il faut qu'un fauteuil roulant puisse mettre ses pieds en dessous. Il faut qu'il y ait une boucle magnétique installée au niveau de cette bande d'accueil. C'est-à-dire qu'il faut que des personnes malentendantes puissent entendre quand même, pas non-entendantes, mais malentendantes, puissent entendre quand même ce que dit l'opérateur, enfin l'hôtesse d'accueil de l'autre côté. C'est pas pour rien qu'à la RATP, maintenant, vous avez à chaque fois des personnes avec les petits micros. C'est compatible avec les protéines. Même les banques en France sont en train de changer leur distributeur de billets. Maintenant, vous avez une prise jack. Maintenant, les trois guichets sont à trois hauteurs différentes pour que les personnes en fauteuil roulant puissent avoir leur propre guichet. Les personnes plus grandes, un autre guichet, etc. Avant de rentrer encore dans le vif des technologies en elles-mêmes, quatre facteurs de succès. Les technologies doivent toujours être un complément, jamais un substitut à la présence humaine. Les technos ne sont pas là pour remplacer les services à la personne. Elles sont là, par exemple, quand on met un aspirateur robotique chez mamie, en évitant qu'elle tombe dessus, donc il faut quand même vérifier qu'on ne met pas n'importe quoi chez mamie, ça peut servir à ce que l'auxiliaire de vie qui faisait le ménage chez elle jusqu'à présent puisse plutôt faire du lien social, parler avec la personne, au lieu d'être en train de faire bouh toute la journée et pas... Enfin, bon, c'est quand même un peu plus intéressant. Ne mettez pas entre les mains de papy-mamie des technologies qui n'ont pas été un minimum éprouvées, qui ne sont pas robustes. C'est tellement dur de les convaincre en termes d'acceptabilité d'utiliser un produit technologique quand, en plus, elle a 90 ans, mamie, son aidant principal peut en avoir 60, 62 et pas être beaucoup plus technophile qu'elle. Donc, mettez entre les mains de papy-mamie des technologies qui marchent. Ça paraît évident, mais en même temps, en tant qu'évaluateur, on voit vraiment beaucoup de choses passer qui ne sont pas encore... qui ne devraient pas être déployées sur le terrain. L'acceptation par les personnes âgées. Bon, à part pour des personnes Alzheimer, où on sait que le consentement éclairé est dur à obtenir, est-ce qu'on met une techno de GPS pour la sécurité de mamie, même si en pratique, on a l'impression qu'on restreint sa liberté ? Donc il y a un vrai sujet éthique autour de ça. Mais en pratique, pourquoi la téléassistance n'est pas toujours portée haute ? C'est parce qu'elle n'est pas forcément acceptée. Donc cet enjeu-là est important. Et le coût, optimiser le coût. Si on écoute les industriels, mamie aura bientôt 3 bracelets, 1 médaillon et 2 balises. C'est pas l'idée. Personne n'a les moyens de payer ça, y compris les villes et les collectivités, les CG. Donc priorisons vraiment. Il y a des choses basiques. Là, je vous l'ai pas mis après, mais IBM, par exemple, a sorti une souris d'ordinateur anti-tremblement pour Parkinsonien. À 55 euros, un Parkinsonien qui tremble comme ça peut utiliser un ordinateur et double-cliquer. Donc, enfin, pour des personnes qui ont toute leur tête mais pas l'usage moteur habituel, ça change la vie. 55 euros, à vous de me dire si c'est un gadget à un prix incroyable ou pas, je ne pense pas. Pour les scléroses en plaques, vous avez une télécommande au souffle pour commander sur les médicalisés, par exemple. Ça coûte 350 euros. C'est compatible avec n'importe lequel des lits médicalisés principaux du marché. Bon, à moi de vous convaincre qu'il n'y a pas que des gadgets dans le secteur. Il y en a aussi. Un fauteuil roulant, dans Paris, vous trouvez des fauteuils qui coûtent 3 fois plus cher que le même fauteuil roulant à 3 rues d'écart dans Paris. Donc, la distribution n'est pas structurée. Mais en pratique, il y a des choses bien qui ne coûtent pas trop cher. Je suis là pour vous dire que c'est vrai. Alors, on ne se leurre pas non plus. Quand on écoute certains consultants du secteur, on nous dit que le marché est en train d'exploser. Je pense que c'est un discours politique. En pratique, ça va très lentement et les professionnels s'approprient petit à petit ces technologies pour l'autonomie. Ça commence par des choses du grand public. La téléphonie mobile, on arrive à Doro, téléphone adapté, et ça peut petit à petit venir dans le secteur des personnes âgées. Les tablettes tactiles, l'iPad, ça marche pas mal pour nous, les aidants familiaux potentiels, et donc on commence à en voir se déployer auprès des personnes plus âgées. Ça commence à marcher comme ça. Mais voilà, je ne veux pas vous mentir, la cyber-économie est encore un petit marché aujourd'hui, en France comme en Europe. Et en particulier en France, le taux de pénétration de la téléassistance, par exemple, en Angleterre est 5 fois plus grand qu'en France. Alors, je commence mon petit panorama. C'est dur de classer les technologies pour l'autonomie en famille. Nous, on aime bien raisonner par finalité. Donc, on a raisonné par communication, santé, sécurité, confort. Contrairement à ce qu'on peut croire en général, c'est pas la sécurité ou la santé qui sont les demandes prioritaires de papy-mamie. C'est la communication. Le plus gros problème, c'est qu'ils sont seuls chez eux. C'est qu'ils s'ennuient, ils ont besoin à la fois d'animation et de personnes à qui parler. Bon, après, mes 3 petites boîtes jaunes à droite, c'est pour dire que les technologies qui vont être déployées, elles sont pensées parfois que pour le domicile, parfois que pour l'établissement. Et par exemple, quand on travaille sur une technologie pour l'accueil de jour, c'est un peu dommage si c'est une technologie de sécurité qui ne marche pas sur le déplacement tous les jours qui est fait entre le domicile et l'accueil de jour en question, par exemple. En géolocalisation, je ne vous donne pas le nombre d'exemples qu'on a où la technologie, en fait, elle peut marcher à l'intérieur de la maison, à l'intérieur d'un EHPAD, mais jamais dans le lieu, enfin, en dehors, entre guillemets, en particulier dans les zones comme la Défense avec plein de tours ou dans les zones rurales où il n'y a pas la 3G. Bon, je passe très vite, mais on arrive à des choses en termes d'innovation qui sont incroyables. En prévention d'incidents domestiques ou en des capteurs, par exemple, qui sont capables, même quand une personne âgée est en train de dormir, de détecter automatiquement qu'elle tombe inconsciente, même pendant son sommeil, et de déclencher en moins de 5 minutes une alerte automatique auprès d'un centre médicalisé ou non, ou téléassistance, pour appeler au secours rapidement. L'enjeu dans ces cas-là, que ce soit pour une chute, un malaise ou autre, c'est que l'intervention se fasse rapidement. Parce que si mamie reste pendant 3-4 heures par terre, en plus en salle de bain, éventuellement, ça a glissé sur une flaque d'eau, hypothermie, etc., les conséquences, les séquelles sont énormes. Bon, donc on essaie d'éviter ça. J'aime bien partir quand même de ce que j'appelle l'habitat intelligent pour la santé. Alors c'est une notion développée au départ à Eindhoven, Philips et autres travaillent là-dessus. Je vais brosser vraiment un panorama très très rapide. Si on part des salles de bain, vous avez entendu parler des baignoires à porte? Vous savez le truc génial où on ouvre la porte, on met mamie dedans, on remplit l'eau, elle prend froid une première fois, on la nettoie et puis on attend que l'eau se vide, donc elle prend froid une deuxième fois avant. Et puis en plus, bien sûr, on ne dit pas qu'un artisan peut creuser une porte dans la baignoire. On change toute la baignoire, donc ça coûte 8 à 11 000 euros. Bon, il existe par exemple des petits matériels compatibles avec n'importe quelle baignoire. Ça, c'est même pas forcément motorisé, ça peut être vérin hydraulique. Et en fait, c'est pas très rapide. Le fauteuil se soulève, tourne, se met dans l'eau, et inversement. Ça coûte 5 fois moins cher qu'une baignoire à porte. Je dis pas que c'est parfait, parce que le marché reste petit, donc ça reste cher à fabriquer, etc. C'est du made in France, c'est écolo, etc. Mais bon, si je prends ma petite toilette... c'est pour faire un petit tour au Japon aussi. Alors là, en France, on se contente de toilettes, parce que c'est quand même un moment assez intime quand on est sur le trône. Je ne sais pas comment le dire autrement comme ça. Quand on ne veut pas se tourner pour tirer la chasse d'eau, qu'on doit appeler sa famille ou un proche pour le faire, là, par exemple, c'est un abattant motorisé qui va aider la personne quand elle a quand même... c'est une paralysie partielle, il ne faut pas qu'elle soit complètement tétraplégique, pour l'aider à revenir sur son fauteuil après à tourner pour déclencher la chasse d'eau. Bon, ça, en France, c'est encore acceptable. Rassurez-vous, c'est pas une catapulte, hein, mamie n'est pas projetée sur la porte des toilettes. À côté de ça, si on prend le Japon, je fais une petite parenthèse Japon quand même, vous savez que les toilettes au Japon, c'est une institution. Il n'y a pas de papier là-bas, c'est au jet d'eau qu'on est... Voilà. Bon, certains diront qu'on sort avec les fesses froides et mouillées, mais et pas forcément très propre. Mais globalement, c'est intéressant pour les personnes qui n'ont pas l'usage de leurs bras. Enfin, puisque voilà, le jet d'eau, c'est automatique. Bon, par exemple, au Japon, quand on est diabétique maintenant, où on peut mesurer son taux de glucose ou sa tension tous les matins quand on est sur le trône, enfin, quand on y va, on a le droit d'y aller quand on veut, mais en tout cas, pendant qu'on est sur le trône, on peut prendre des mesures pour suivre une maladie chronique ou autre. Et le top du top, la base qui marche très bien et qui, en France, a du mal à se déployer, c'est que les toilettes analysent la production locale on fait la grosse commission. Et automatiquement, sur le frigo de Madame Dupont, il y a un petit écran numérique qui écrit « Bonjour Madame Dupont, vous manquez de fibres ce matin ». Ça, c'est l'offre de base. C'est Toto, l'opérateur, qui fait ça. C'est une grande marque là-bas. Et Toto, maintenant, dans des villes en expérimentation, à Kobe par exemple, sort l'offre e-commerce. Automatiquement, le système commande les poireaux dans le... supermarché du coin et c'est livré à mamie. Vous voyez, en France, en termes d'acceptabilité, ça le ferait pas trop là pour l'instant. Mais là-bas, culturellement, ça marche très bien. Bon, la domotique, c'est important que je vous en parle. Vous avez des acteurs comme Legrand qui sont présents sur le salon. On parle de beaucoup de choses. Alors, il y a du bien et du moins bien. Déjà, le chemin lumineux. Cassons le mythe du chemin lumineux. Ça peut être très bien. Mais un chemin lumineux, c'est pas comme à l'aéroport, c'est pas dans les avions, hein. C'est pas ce truc-là. On part des luminaires déjà présents chez mamie et on les rend intelligents. Quand il faut changer le bâti de mamie, quand il faut casser les murs, ou trouer, faire des percées, etc., il l'accepte pas. Papy, mamie veut pas. Déjà, si on touche son tapis, c'est difficile. Si on bouge un meuble, c'est difficile. Alors, casser le mur, c'est encore plus compliqué. Mais chemin lumineux en soi, c'est très important. Enfin, ça peut être utile pour éviter des chutes la nuit en particulier. On est en train de mener une évaluation sur 2200 personnes dans le Limousin pour le prouver. Bon, à côté de ça, donc. des acteurs comme Legrand sortent des produits très intéressants, par exemple. Moi, ça me servirait bien la nuit d'avoir un interrupteur avec un petit rétro-éclairage tout autour. Ça vous est jamais arrivé de chercher un interrupteur la nuit ? Bah, moi, si. Donc voilà, ça me serait pas mal. À côté de ça, d'autres technologies sont plus incertaines. Par exemple, en bas au milieu, la marguerite. 8 boutons, au départ, c'était pour Alzheimer. C'était pour les chambres en EHPAD. Vous savez qu'au-delà de 2 boutons, c'est déjà difficile. Et encore, Alzheimer stade 2, au-delà d'un bouton, j'ai du mal à croire qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Mais en même temps, à la décharge industrielle, c'est compliqué d'avoir une iconographie qui marche entre... Si vous prenez le symbole Citroën, ça veut dire quoi ? Augmenter la température, lever les volets, augmenter la lumière, augmenter le son de la chaîne IFI. C'est pas simple, hein, quand même, de faire une iconographie signifiante, simple et tout. Je vais très très vite, je suis désolé, mais le temps est très réduit. J'aime bien cette photo que j'ai prise au fin fond de la Creuse. J'étais à Guéret, hôpital de jour. Au bout d'une semaine, les papy-mamies là-bas qui avaient 82 ans en moyenne, il y en avait 8 sur les 32 qui utilisaient quotidiennement Internet alors qu'ils ne l'avaient jamais utilisé avant. Là, c'était sur Couf, ça n'existe plus, désolé. Pour 600 euros, on a créé un magnifique atelier informatique en espace un peu maison de retraite. C'était juste une webcam du marché toute bête, un PC tout bête. À partir du moment où les soignants sont impliqués dans un projet, on peut faire des choses intéressantes, hein, même sans que ce soit de la gironde technologie. Bon, il faut un accompagnement de qualité, c'est tout. Mais là, pour la visioconférence, longtemps on a vu des solutions qui coûtaient 1500 euros pièce, alors que Skype pouvait suffire très bien, pour peu qu'il y ait un professionnel un peu motivé qui soit à côté. La Wii, j'adore la Wii. En EHPAD, c'est un grand, grand succès, la Wii. Les ateliers en EHPAD, vous avez 2 jeux à choisir. Question pour un champion et le bowling. Question pour un champion, ils n'ont même pas à manipuler la télécommande. Ils savent ce que c'est, etc. Le bowling après, c'est parce que même en fauteuil roulant, et même quand tu as une force de préhension pas énorme, tu peux gagner, entre guillemets, enfin toucher les quilles, quoi. Alors, bien sûr, si t'as pas envie quand même, parce que bon bah t'as peur d'être humilié devant tes copains, bah, tu te moques pour la salle et tu te moques des copains qui, eux, qui mettent la boule dans la gouttière, je crois qu'on dit. Bon, là, en l'occurrence, je montre toujours cette photo-là aussi. C'est le grand-père de ma femme. Il y a 3 ans, les cousins lui offrent une Wii avec la Wii Fit, le plateau, vous savez, pour l'équilibre. Alors au départ, il joue à Mario Kart, parce que ça vous parle, c'est le jeu de voiture de course. En l'occurrence, il était en sens inverse tout le temps, il a rien compris, ça l'a pas fait. Ce jeu-là n'est pas adapté. Mais juste après, ils ont fait le jeu d'équilibre. Donc vous avez un plateau, un trou dans le plateau, il y a une bille, et avec son centre de gravité, il faut s'assurer que la bille tombe dans le trou du plateau et pas sur les côtés du plateau. Il n'était jamais tombé, mais il fait gaffe à son équilibre tout le temps. Il a pulvérisé les cousins en question et il leur a dit à la fin de la soirée de Noël, revenez dans 20 ans. C'est ça la Wii thérapie, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Et un truc comme la Wii qui coûte pas grand chose pour un EHPAD, franchement, moi j'ai animé plein d'ateliers en EHPAD de Wii, ça marche très bien. J'ai eu 2 échecs sur plus de 100 ateliers parce que vraiment les personnes en face étaient trop en perte d'autonomie, malvoyantes à un point trop, par exemple, pour que ça colle. Si on n'y voit rien, la Wii c'est un peu compliqué. Faut passer sur d'autres consoles de jeu dans ce cas-là. Bon, encore une fois, je vous brosse un petit panorama de trucs un peu sympas. Là, c'est quand un designer chinois, marié à une sociologue chinoise, viennent faire du Made in France pour les papy-mamies français. Un déambulateur de jardinage, il n'y a pas de technologie dedans, mais le matériau est innovant, hauteur variable, ça peut être motorisé. Un mois après sa sortie, déjà 40 EHPAD l'avaient commandé. Ça coûte environ 500 euros le truc, donc c'est pour remplacer, vous savez, les établissements, les EHPAD du sud de la France, là, près de Perpignan et tout, qui ont acheté des luminothérapies, des plafonds de luminothérapie à 11 000 euros pièce, alors qu'une véranda ou juste un chemin de déambulation dans un jardin à côté, ça aurait été très bien, ça aurait coûté 2 fois moins cher. Mais il disait, il n'y a pas de déambulateur pour aller dehors pour l'instant. Bah, maintenant, il y en a un. Bon, c'est made in France, c'est recyclable, c'est écolo, c'est parfait. Bon, et 500 euros, vous pouvez me dire, mais c'est cher pour ce que c'est, mais rien que le moule pour le rentabiliser sur des petits volumes. On reste sur des petits volumes en silver economy. Bon. C'est quoi, ça vous parle ? Certains connaissent ou pas ? C'est le Paro. Bon, c'est un petit tour au Japon encore. C'est le robot Alzheimer le plus connu au monde. Donc c'est un joti. Donc c'est une belle peluche. Quand on la voit, enfin, quand on sait ce que c'est, tout le monde, les ergothérapeutes et tout en France vont dire c'est pas bien, ah, c'est pas beau. Les CG, c'est pareil, ils aiment pas en général. Mais quand on le voit sur un salon, qu'on voit la peluche, tout le monde craque, tellement elle est mignonne. Et en fait, c'est un robot bourré de capteurs. Les yeux, c'est des caméras. Le nez, c'est un capteur hygrométrique. En fait, ça mesure le stress de mamie Alzheimer en EHPAD ou à domicile, au Japon. Et en fait, la nuit, quand elle n'arrive pas à dormir, qu'elle va faire sa crise d'angoisse ou crise de panique, ce robot est censé l'apaiser pour éviter la crise de panique. Et donc voilà que le robot se met à gigoter ses petits bras, à faire des petits bruits, etc. Au Japon, c'est un carton. En France, pour info, ça coûte 3000 euros pièce. Ça s'est pas beaucoup développé pour l'instant. Je dis pas que c'est pas bien, mais culturellement, au Japon, la robotique, ça peut le faire pour l'instant. En France, on est encore au tout début. J'ai pas dit qu'on n'était pas bon en robotique. Les entreprises de robotique françaises sont bonnes. Mais culturellement, l'acceptabilité, le déploiement, là-bas, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est encore un début. Pourquoi un phoque ? Pourquoi un phoque ? Pourquoi pas un chien ou un chat ? Parce que plus jeune, on a peut-être eu un chat ou un chien ou un chat. Si la peluche ressemble au chien ou au chat qu'on a perdu, on va être en situation de tristesse, d'échec, nostalgie, il ne faut jamais l'être. Ils ont hésité à l'époque entre un dinosaure et ça. Le dinosaure, ça faisait trop peur, donc ils ont pris le phoque. Parce que le phoque de compagnie, même dans le nord de la France, c'est rare. La Froggyloop, ça vous parle ? Ça, c'est une belle aventure d'un opticien en France, dans sa cave. Il s'aperçoit que les télégrandisseurs, vous savez, pour la loupe numérique connectée à une télé ou un écran d'ordi pour lire un journal, payer sa facture EDF, etc., ça coûte en moyenne 2500 euros. Et c'est un peu cher quand même pour ce que c'est pas trop connu, on peut pas l'essayer, etc. Bon, le gars, il fait... Pardon, c'est la technologie, il y a des limites, hein, je le dis moi-même. L'opticien de génie, dans son cave tout seul... Il en crée un, il dit je vais le vendre que par internet, ça va coûter moins cher, je le vends à 1000 euros et je fais un truc sympa pour les papy-mamies et pour leurs petits-enfants. Œil gauche de la souris, de la petite grenouille, on, œil droit, off, la langue, c'est la mise au point. C'est parlant, ça amuse la famille, c'est un carton, il en a vendu des milliers en peu de temps, c'est la seule, enfin il a fait une levée de fonds incroyable, bon. Donc il y a quand même des success stories dans notre secteur, mais ça court pas les rues. Ça, par exemple, c'est un autre exemple. On se dit, les verres progressifs, c'est pas mal. Voilà. Les prothèses auditives, c'est bien aussi. Mais le problème, c'est que c'est toujours trop en évidence. On va masquer la prothèse dans les branches des lunettes. Et puis, je suis grande audition. Donc, je suis une boutique un peu de luxe. Je vends les deux déjà. Mais je vais mettre les deux ensemble et je vais diminuer le prix. Je vais pas faire le prix de l'un plus le prix de l'autre. Je vais baisser un peu. Bon, en pratique... Les ventes de ce produit-là, c'est pas colossal, mais le buzz qui est fait autour de ce produit-là a fait qu'il y a plein de gens qui sont venus et qui ont fini par acheter des lunettes à verre progressif normaux au sein de la marque. On peut avoir une politique d'innovation, mais juste pour faire le buzz et, entre guillemets, vendre son produit cœur de métier. Bon, en soi, c'est une bonne idée, sauf que quand vous enlevez vos lunettes, si vous n'entendez plus rien, c'est un peu dommage. Donc le produit a ses limites. Il a un intérêt en termes d'acceptabilité, mais ça répond pas aux besoins complètement. Je vais pas trop vite, ça va jusque-là ? Bon, vous n'avez pas l'air trop malheureux pour l'instant. Après ce très très bref panorama, je vous fais 5 tendances du marché. Donc là, c'est Madame Irma. Je mets ma casquette à Madame Irma. Actuel, futur, on peut se tromper, mais on a l'impression qu'on n'est pas trop hors des clous. Premièrement, que ça soit les caisses de retraite, les mutuelles, les bailleurs, les collectivités... On sent qu'on est en train de passer d'un modèle de téléassistance actuel, donc vous avez le médaillon, le transmetteur téléassistance, encore connecté au réseau France Télécom, Orange, c'est obligatoire. Et de l'autre côté, des opérateurs qui, en général, si on a de la chance, ne sont pas au Maroc, mais sont bien en France, ne demandent pas « Bonjour, vous êtes encore en vie alors ?» Non, ça va, je suis encore là. Assistel, par exemple, c'est un acteur qui fonctionne sur le modèle classique, qui s'en sort très bien. Mais petit à petit, on arrive à des modèles plus innovants où, en fait, la téléassistance est automatisée. Alors, encore une fois, je vous prends ce qui existe. J'ai pas de jugement de valeur éthique ou autre. Là, c'est une solution de vidéosurveillance chez mamie ou en établissement. Donc, il y a plein d'équipes, il y a plein de personnes qui en veulent pas chez elles parce que tu as une caméra chez toi. Néanmoins, le sens de l'histoire, Agir Carco, plan domicile, ça le prouve aussi, c'est l'automatisation du déclenchement de l'alerte. Parce que quand t'es, en particulier troubles cognitifs, mais même juste quand t'es un petit peu âgé, un peu sénile, le médaillon, même si tu le portes, t'as pas forcément, tu paniques, tu vas pas forcément appuyer dessus quand même. Bon, le cas, on dit souvent, mais en fait, il tombe sur le ventre et puis il arrive plus à appuyer dessus. Bon, ça va, c'est un cas très très rare, mais en pratique, il y a le côté crise d'angoisse et tout qui fait qu'ils n'arrivent pas cognitivement à se dire qu'il faut appuyer sur le bouton. Et puis ils peuvent ne pas le porter quand même. Et puis de base, de toute façon, on est de plus en plus sur des technologies qui ne sont pas portées par la personne, Mais en fait, le médaillon de téléassistance ou le bracelet pourrait être un complément pour déclencher une alerte si elle ne s'est pas déclenchée automatiquement toute seule. J'aime bien mon petit mot sur le quadruple play. Jusqu'à présent, SFR, Free, Orange sont sur le triple play. Quand ils mettent une box chez nous, la box fait téléphonie, ADSL et chaîne de télévision. Sauf que maintenant que la fibre optique se déploie de plus en plus, vous vous doutez bien que le tuyau d'information, il peut permettre de faire passer beaucoup d'autres choses. Et il y a plein de pays à l'étranger qui ont compris ça et qui font déjà des trucs intéressants. En Espagne, par exemple, vous avez l'État qui a financé des chaînes de télé pour les seniors. Alors, c'est l'équivalent de Joe Dassin, Claude François, déchiffrer des lettres depuis 30 ans, etc. Enfin, c'est des programmes ciblés pour cette population-là, intéressantes pour eux. En France, là, je vous ai mis SFR, la 9 box. Bon, SFR a fait une tentative qui n'ont pas été très, qui ont été infructueuses jusqu'à présent. Technosens, la solution à droite, là, le patron était présent ce matin, je ne sais pas s'il est encore dans le coin. C'est le genre de techno grenobloise assez innovante à l'époque, assez ergonomique, intuitive. Webcam connectée à la télé. Et en fait, l'idée, c'est que la télé, c'est un objet de la visuelle. Je simplifie la télécom de télévision pour que les papy-mamies puissent utiliser plus longtemps la télé en question. Et j'en profite pour créer des services au niveau de la télé sur échanger avec le pharmacien, échanger avec son boucher, etc. Je crée un réseau local de professionnels. Ça se vend pas très bien. On s'est dit, pourquoi pas le vendre avec SFR ? Dans les boutiques SFR. Là non plus, ça s'est pas très bien vendu. Moi, ce que je pense, c'est que ce qui va créer le changement, la rupture en France, c'est la Wii. Alors la Wii ou équivalent. La Wii, c'est un cadeau sympa que les enfants ou les petits-enfants de mamie peuvent lui faire pour Noël ou pour son anniversaire. C'est sympa parce qu'en plus, les petits-enfants vont avoir encore plus envie d'aller chez mamie parce qu'ils vont jouer à la Wii, qu'ils n'ont peut-être pas forcément chez eux. Et puis mamie est plus gentille avec les enfants. Elle laisse jouer plus longtemps que les parents, forcément. La Wii, elle a des ports USB. Quand on branche une clé 3G sur une Wii, ça devient une box ADSL. Dans d'autres pays européens, on vend plus de box aux papy-mamie. On vend une Wii, on la transforme en box ADSL, et les chaînes de télévision, on passe que par la Wii pour les commander, et les services pour les seniors, même suivi médicronique, passent déjà par la Wii. C'est des chaînes de la Wii, en fait. Bon, je vous ai mis aussi EDF, le projet Edelia. Celui-là n'a pas marché très bien pour le moment, mais un jour, on va aussi, par ce biais de cette box à domicile, enfin, par la domotique à domicile finalement, on va aussi avoir un contrôle de la consommation électrique. On pourra automatiquement vérifier qu'il n'y a pas trop d'eau qui est consommée. Si mamie veut prendre 3 bains dans la journée, pas de problème. Mais si pendant la nuit l'eau n'arrête pas de couler, c'est qu'il y a une fuite, automatiquement, vanne de rétrocontrôle, on va pouvoir couper l'eau. Fuite de gaz, vous savez que c'est un gros problème actuellement. Automatiquement, on pourra couper si la consommation est anormale. Mais tout ça est en train d'arriver. En tout cas, téléassistance, domotique, c'est les deux socles, pour moi, vitales pour que les gérants technologiques se développent. La domotique, c'est là-dessus que se greffent les capteurs et autres, y compris mouvement, chute, etc., physiologique, de plus en plus. Weezing, la balance, ça peut être lié à une box, c'est évident. La téléassistance, c'est le moyen de communiquer avec l'extérieur du lieu de vie, qu'on soit en EHPAD, qu'on soit à domicile. Là, je passe plus sur le volet établissement. C'est quoi le gros souci en établissement aujourd'hui ? Vous avez entendu parler de la non-traitance ? On n'a jamais autant de temps libre que quand on est en EHPAD. Et on n'a jamais aussi peu de choses à faire, malheureusement. Et les animateurs, alors quand on prend, je ne veux pas dire de bêtises sur le chiffre, mais on est à moins de 10 centimes par jour. Je ne sais pas si vous savez, un EHPAD, en prix total, on est autour de 80 euros par jour. C'est le prix total que ça coûte, le bâti, les professionnels, la nourriture, etc. On est à moins de 10 centimes d'euros en moyenne en France sur le budget de l'animation. Là, je parle main d'œuvre et matos compris. Il n'y a rien pour l'animation, il n'y a rien. Il y a des trucs qui existent, un aquarium. Là, on en a plusieurs au bureau, on les teste. Avec les filtres allemands, il faut l'entretenir une fois tous les 3 mois seulement. Ça devient raisonnable, c'est pas un truc toutes les semaines. La borne mélo. C'est le jukebox, c'est pour avoir de la musique en EHPAD. Alors, c'est l'anti-McDo. Vous savez, à McDo, ils passent de la musique très rapide pour faire 3 services à chaque repas. Enfin, le midi, il faut qu'il y ait 3 services, 3 tables occupées par des personnes différentes. Donc, on met une musique entraînante et tout. Là, on met une musique calme et douce pour que les personnes mangent tranquillement, mangent bien. Mais bon, le jukebox pour papy-mamie, c'est super intéressant en soi. Oui, ça coûte encore très cher. C'est plusieurs milliers d'euros, la borne mélo. Néanmoins, ça répond à un vrai besoin. Et c'est cher parce qu'en fait, dedans, c'est vendu avec 2000 MP3. Les MP3, ils sont pas piratés. 2000 MP3, ça coûte cher. Jodassin en particulier. Non, je sais pas. Bon, l'informatique adaptée. Ah bah si, j'ai mis ma petite souris anti-tremblement pour parkinsonien. Vous avez plein de solutions. Il y a Ordissimo qui présente... Ordissimo, c'est le pionnier en France là-dessus. 60 000 clients maintenant. Vous avez des solutions qui marchent, qui sont vraiment pertinentes. Vous avez des solutions comme Innovox pour la partie téléassistance, lien social qui tourne très bien. Vous avez des solutions pour la visioconf comme Webinage qui sont distribuées par groupe chèque déjeuner qui marchent très bien. En fait, il y a des solutions complémentaires mais qui sont méconnues. Bon, les acteurs comme nous, on est là pour aider à voir ce qui est bien, pas bien. Vous connaissez Audimo, la console de jeu pour non-voyants ? C'est un beau projet aussi, mais son marché est trop petit. Développé avec une association de malvoyants, non-voyants, Valentin Huy. C'est la plus grosse en France sur le sujet. Ils ont fait une console de jeu, pas vidéo, ils ont fait une console de jeu audio. Tout se fait juste avec le bouton et la voix. On peut commencer à faire des mots croisés, par exemple. Jusqu'à présent, c'était ton aidant familial qui te lisait 20 fois les grilles de mots croisés. Même quand on aime beaucoup son proche, à la fin, c'est un petit peu pénible quand même. Bon, on remplace pas l'humain, il peut toujours être à côté, mais les grilles sont lues par la machine. Ça coûte 250 €. Mais bon, voilà, le marché, c'est quelques milliers de pièces. Donc c'est pareil, on n'est pas sur des marchés de masse pour le moment. Et l'autre tendance, la quatrième maintenant, distribution de masse. Je ne sais pas si vous avez vu le colloque de Leroy Merlin, la Fondation Leroy Merlin Source. Bientôt, il y aura au niveau des rayonnages des grandes surfaces comme Leroy Merlin, une partie senior, des packs domotiques qui vont être vendus, qui vont être packagés intelligemment. Ah non, Gérard, tiens pas devant là, non. Le groupe Boulanger, comme je vous disais, vend déjà de la Gérontech, ils vendent de l'informatique adaptée. Nulle part, il y a marqué le mot senior sur leur site. C'est marqué informatique simplifiée, informatique pour tous, informatique accessible. Au départ, ils vendent des formations sur l'informatique pour les personnes retraitées, etc. Rapidement, ils se sont dit, les tablettes tactiles, c'est un bon truc. Alors, pourquoi tablettes tactiles, d'ailleurs ? Quand on commence à perdre ses repères spatio-temporels et qu'on a une souris d'ordinateur, un mulot, et qu'on gigote ce mulot sur un plan horizontal et que ça fait bouger un curseur sur un plan vertical, c'est super pas intuitif pour les personnes en général. La tablette tactile, c'est vraiment une notion de rupture à ce niveau-là. L'acceptabilité au niveau de nos évaluations pour les seniors des tablettes tactiles, elle est 20% supérieure à l'informatique classique. Bon, voilà. Et petit à petit, on avance. Maintenant, si vous me dites, est-ce qu'il y a assez d'applications qui sont pertinentes pour ces publics-là ? Pas encore. Doro, vous avez peut-être vu, a fait la Doro Experience. Leur Doro Store est encore... C'est une sorte d'Apple Store, mais version senior, avec leur téléphone mobile et leur tablette. Il n'y a pas encore beaucoup d'applications dessus. Mais quand il y en aura, ça sera vraiment intéressant. Y compris en se rapprochant, enfin pas que dans le champ médico-social ou social, mais aussi encore dans le champ médical, avec du suivi de pathologies chroniques et autres de plus en plus intéressants, en lien avec Weezings ou d'autres acteurs. Weezings étant présent là-bas, j'en parle comme eux. Bon, Crédit Mutuel, c'est via sa filiale EPS. EPS est numéro 1 en France de l'anti-intrusion. Quand on est EPS et qu'on a déjà des capteurs domotiques chez les gens, c'est pas très compliqué de rajouter un peu d'algorithmique pour que les capteurs puissent aussi détecter une chute, sans qu'on revende du matériel à mamie, sans qu'on redérange son habitat. Je suis pour la mutualisation, et j'y crois très fort. La cinquième tendance, qui est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est le millefeuille politico-associativo-culturel français, et vous avez à peu près autant de centres experts en France que de besoins des personnes âgées. Bon, on essaye d'être un peu chef d'orchestre dans tout ça en renvoyant vers les gens pertinents, mais quand vous êtes Renault ou Peugeot et que vous voulez adapter un véhicule, par exemple, vous allez voir le CRM, Centre d'expertise recherche mobilité handicap. Quand vous travaillez sur les fauteuils roulants, c'est la Fondation Garche, etc. Donc, il existe plein d'expertises, mais très éclatées, avec des financements dispersés, c'est un peu dommage. Pareil pour les conseils généraux qui sont dans la salle. Les EVAL, le problème, c'est que souvent, il y en a plusieurs qui sont refaites, même dans des départements voisins. Essayons de mutualiser et d'innover à chaque fois. Nous, on est là pour essayer aussi de vous faire aller sur des sujets vraiment nouveaux, vraiment intéressants. J'ai dépassé de 5 minutes, je m'en excuse. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. Nous, on fait à la fois des bouquins, on fait de la presse. On n'est pas là pour se faire du bénéfice. On cherche à être à l'équilibre au niveau de notre boîte. Mais pour toute évaluation, pour toute question sur une techno est bien ou pas bien, en particulier si vous êtes une assoce, voilà, on pourra vous aider avec grand plaisir. Notre stand est juste là. Merci. Si vous avez une ou deux questions, peut-être, je ne sais pas, je vais avoir le temps, deux secondes. Mais... Ah non, Gérard, non, toi, tu connais. Attends, on a un micro ?
Oui. Oui, en parlant mutualisation, est-ce que dans vos critères d'évaluation, vous prenez en compte le fait que la plupart des systèmes qui ont été proposés, là, vous présentés, sont en protocole propriétaire, impossible à mutualiser et de toute façon pas en recherche de mutualisation. Et donc du coup, en multiplication des coûts à chaque fois qu'on veut avoir un nouveau service.
Alors oui, c'est un critère, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de normalisation ou de protocolisation pour être adapté. Les protocoles qu'on trouve comme Continua ou autres sont des protocoles qui dépassent largement ce cadre-là, plutôt sur la domotique au sens large ou autre. Dans notre secteur, vous êtes de quelle structure ? Je sais pas, enfin, pour avoir un exemple. Mais...
Intent Technology, on est une société qui travaille sur l'ouverture des plateformes, justement. On travaille sur le web, etc.
On est partenaire sur un projet, je crois.
C'est probable.
Oui. En fait, par exemple, sur le lien social, on n'a jamais eu de cas d'interopérabilité possible. Mais quand je suis en EHPAD et que je parle de ces technos-là, à chaque fois, on évite qu'il y ait un autre serveur acheté ou d'autres capteurs mis. S'il y a du Wi-Fi qui va être déployé, on ne va pas mettre du RFID, par exemple. On s'arrange à chaque fois pour que les technologies soient autant que possible réutilisées. Mais ce n'est pas toujours faisable et tous les acteurs ne veulent pas, c'est vrai. Mais de plus en plus, ils changent d'avis parce qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, il faut qu'ils aillent à plusieurs démarcher les établissements parce qu'ils n'y arrivent pas à vendre sinon.
Mais ça devient un critère d'évaluation.
Ah bah pour nous, c'en est un depuis le départ.
D'accord.
Mais qui restait pas prioritaire, effectivement, par rapport à d'autres. La pérennité des boîtes, par exemple, c'est un critère aussi. Mais en même temps, on a plein de startups qui ont plein de promesses. L'Agir Carco va vouloir que dans ses critères, la boîte soit toujours là dans 3 ans. Vu la crise actuelle, c'est dur de dire qu'une boîte va encore être là dans 3 ans. Même un grand groupe, c'est incertain. Donc, nos critères, ils sont exhaustifs, mais après, dans la vraie vie, plus ou moins utilisés. Je ne veux pas vous mentir. Voilà. Bon, bah, y a une conf qui s'enchaîne, là, c'est ça ? Donc merci beaucoup, et puis je suis juste là, je suis allé 3 jours, hein, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Merci.